Alors, dans le cadre prestigieux, historique des vadrouilles de Maître Renard, aujourd'hui, nous avons pour invité une guide conférencière, Annick Delorme. Bonjour Annick.
Bonjour.
Et elle va nous parler spécifiquement à la fois du château de Maintenon et de tout ce qu'il y a à voir également dans les environs de ce château de Maintenon et à Maintenon même, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, beaucoup de gens connaissent le château, mais peu ignorent que la ville a aussi une histoire extraordinaire qui vaut la peine d'être connue.
D'accord. Commençons par le château.
Oui.
C'est ce qu'il y a effectivement de plus connu, de plus symptomatique, de plus extraordinaire quand même qu'on le voit. C'est un château qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressé parce qu'il était à taille humaine. C'est un petit château très humaniste d'une certaine manière.
C'est vrai.
Contrairement au grand château de la Loire.
C'est normal puisque nous sommes les châteaux de la Loire, ce sont plutôt des châteaux royaux avec une prestance. Là, nous sommes dans un château de famille, dans une qui a commencé avec les premiers seigneurs de la du petit bourg de Maintenon. Donc, les seigneurs ne pouvaient pas se permettre, et n'avaient peut-être pas non plus les moyens, d'avoir des châteaux si gigantesques. Et c'est vrai que les châteaux sont toujours à taille humaine pour des questions de chauffage, tout simplement. Rien que ça, déjà, les pièces, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne sont pas grandes dans des châteaux parce qu'il faut les chauffer.
Et en plus, c'est le château d'une femme.
Oui, en plus, oui.
Donc, c'est le château de quelle femme?
Alors, il est connu pour être le château de Madame de Maintenon, qui fut l'épouse morganatique du célèbre roi soleil Louis XIV.
Morganatique, c'est-à-dire?
Morganatique, ça veut dire que le roi épouse donc Madame de Maintenon. Il l'épouse, mais elle ne peut prétendre à être reine. Elle n'est pas reine. Elle est épouse d'eux. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais s'ils en avaient eu, ces enfants n'auraient jamais pu prétendre à la légitimité,
d'accord,
à la couronne.
Alors, c'est qui? Parce que c'est la dernière épouse de Louis XIV, pour être clair.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, on est en fin de vie, tout le monde est en fin de vie là-dedans.
Oui.
Et d'ailleurs, le siècle de Louis XIV, dans la dernière partie, est marqué par plus de religiosité, moins de fêtes, et plus sage. Et elle a eu une influence sur
lui. Ah oui, effectivement, Madame de Maintenon était une femme extrêmement pieuse. Et donc, du coup, quand elle a commencé ses relations avec Louis XIV, elle s'est fait un point d'honneur, parce que Louis XIV, on le connaît, hein, c'est un coureur.
On connaît. En
fait. Voilà. Et elle s'est faite un point d'honneur à essayer de lui faire retrouver le lit conjugal, si je puis dire.
Oui, là.
Alors, les bras de sa femme. Alors, pareil, ça aurait un peu marché. Bon, après, l'épouse du roi a eu la bonne idée de mourir, donc ça arrangeait bien tout le monde.
Oui, et elle n'était pas du tout dans la même optique la précédente, c'était madame...
La Montespan.
La Montespan, voilà.
Alors, Madame de Montespan a eu une ascendance sur Louis XIV, et il avait pour elle un grand amour, il lui passait tout, et elle n'avait pas un caractère facile. Tout lui était passé, tout lui était presque dû, c'était la reine, entre guillemets, bien sûr. Et puis, l'affaire des poisons a tout changé.
Alors, on va rappeler l'affaire des poisons, mais c'est en fait une femme relativement frivole, superficielle, qui est un peu comme Marie-Antoinette plus tard, qui a un rôle politique, certes, mais qui est une femme qui aime le luxe, qui aime la cour, qui aime ce qui est brillant.
Voilà, mais là, elle a comparé à Marie-Antoinette.
Ça coince.
Ouais, peut-être un peu trop, parce que Marie-Antoinette, il y a sa jeunesse et son insouciance. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal quand les gens disent Marie-Antoinette, elle était frivole, elle dépensait beaucoup d'argent. Moi, j'ai toujours envie de remettre les choses dans leur contexte et dire Marie-Antoinette, elle a grandi dans la cour la plus grande du monde à l'époque, à la cour d'Autriche. Et quand elle arrive dans cette petite France, elle ne comprend pas, elle est complètement... Mais la preuve en est, toutes ces lettres à sa mère qui lui donnent des conseils et qu'elle ne coûte pas, aujourd'hui, on dirait quoi? Bon, on dirait qu'elle a fait sa crise d'adolescence.
D'accord.
Voilà.
Revenons à la Montespan, donc oui. Avec qui le roi Soleil a eu des enfants.
Oui,
et
sept.
Sept enfants, et Madame de Maintenon intervient dans les enfants.
Oui, alors ils se sont connus comme ça.
Et oui.
Parce que Madame de Maintenon, il faut savoir que son vrai nom c'est Françoise d'Aubigné, qu'elle va naître en prison quand même, ça c'est extraordinaire. Elle naît en prison et elle va avoir des...
Et pourquoi son père ou sa mère étaient en prison ?
Alors, c'est son père qui était en prison. Constant d'Aubigné était en prison. Apparemment, ce serait pour dette de jeu. Mais c'était une personne qui avait... Donc, la famille est protestante. Hein. Ça, déjà, c'est important de le noter. La famille est protestante. Le père, Agrippa d'Aubigné, était un proche d'Henri IV. Hein. Et quand Henri IV s'est converti au catholicisme pour pouvoir prendre Paris, eh bien, il s'est... Agrippa d'Aubigné s'est éloigné de Henri IV. Et son fils Constant était le déshonneur de sa vie, si je puis dire, puisque c'était un homme qui aimait la frivolité, la cuisse légère, et qui jouait énormément, qui allait voir à droite et à gauche. Il a tué sa femme car il l'a surpris dans une auberge en état d'adultère, mais il n'a pas fait de la prison pour ça. Il a fait de la prison apparemment pour dettes de jeu considérables.
D'accord. Et Agrippa d'Aubigné, donc le grand-père, était aussi un très bon poète.
Oui, un poète, oui.
Voilà, d'accord. Alors, il a connu Louis XIV et Madame de Maintenon-sur-Son connu parce qu'elle avait pour charge d'élever les enfants.
Exactement.
Les 7 enfants, oui. Donc, de Madame de Montespan.
Voilà, parce que plus tard, elle va faire la connaissance du poète Scarron. Et puis Scarron, qui l'aime beaucoup et qui voit derrière toute son intelligence, eh bien, va lui proposer deux choses. Soit il la dote et elle rentre au couvent, soit elle l'épouse. Il a 42 ans, elle en a 16. Ben, pour elle, le choix ne se pose pas. Elle préfère épouser le poète Scarron, hein, difforme.
Voilà, qui est très, voilà, très moche, et il a pied
mais,
beau,
mais
il est
très
moche.
Très érudit.
Oui, mais il faut y aller quand même, parce que 16 ans, à 42 ans, lorsque vous êtes voilà, pas gâté par nature, c'est un choix qui se faisait, on trouve ce genre de choses dans Molière.
Oui, mais en fait, pour elle, il était hors de question d'aller dans un couvent, parce qu'elle avait déjà été dans des couvents, elle a été formée dans des couvents à Paris. Notamment, c'est à Niort d'abord, à Paris ensuite, et c'est à Paris hein, qu'elle s'est convertie au catholicisme. Et à partir de ce moment-là, la mère de sa marraine, eh bien, l'a prise sous sa coupe et a commencé à la faire rentrer dans le monde parce qu'elle était devenue catholique. Avant, elle était hors de question. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré le poète Scarron. Et au cours des salons du poète Scarron, elle a rencontré Madame de Montespan.
D'accord. Et c'était quand même un esprit brillant, c'était pas qu'une nounou.
Non, c'était une femme qui avait, je dirais, une intelligence fine pour moi.
Voilà, mais elle était très sage.
Alors, c'est son mari qui l'a conseillée. Apparemment, comme elle n'a pas d'argent, hein, à cette époque-là, il faut bien se dire qu'une femme a plusieurs possibilités dans sa vie. Hein. Donc, soit elle est issue d'un milieu très aisé, et puis son mariage va rehausser la famille au rang sociétal. Donc je dis au hasard, on est marque duchesse, on peut pas aller plus haut, donc on va se marier avec un duc, on va pas descendre et se marier avec un comte ou un vicomte, c'est régresser la famille. Elle ne pouvait que monter, née en prison, elle ne pouvait que monter. Et donc, comme elle n'avait pas d'argent, ce qu'il lui fallait, c'était sa réputation. Elle n'avait que sa réputation.
Et un protecteur.
Et un protecteur, Scarron. Mais quand Scarron est mort, elle avait 24 ans. Elle est veuve. La reine donc, va lui proposer des rentes. La reine, c'est la mère de Louis XIV. Va lui proposer des rentes. Et puis, elle va continuer comme ça. Et quand Madame de Montespan va lui proposer de s'occuper des enfants... des bâtards royaux.
Car elle n'est pas légitime de Montespan non plus.
Non, bien sûr.
Bien sûr. Bien c'était sûr. Louis XIV. Quoi.
Voilà, bien sûr. Donc là, forcément, elle va monter les échelles. Elle va monter l'échelle.
Elle va se faire remarquer justement par sa sagesse, sa religiosité, sa dévotion.
Et alors, Louis XIV, sa dévotion, j'ai envie de dire, il s'en fiche un peu.
Oui.
Elle va se faire remarquer. Au vu de l'amour qu'elle donne à ses enfants. Et Louis XIV dira qu'il doit être bon de se faire aimer par une femme comme elle, parce qu'il aura vu comment elle traite ses enfants et quel amour elle a pour ses bâtards.
Les bâtards de la Montespan. Alors,
les bâtards royaux.
Oui,
royaux. Parce que elle, c'est.
Et donc, la Montespan est éliminée sur l'histoire de l'affaire des poisons. Vous pouvez rappeler un peu de quoi elle s'agit.
Alors, c'est une époque où effectivement, les personnes qui voulaient arriver à leur fin, disait-on, allaient voir ce qu'on appellerait aujourd'hui des marabouteux, des personnes qui, avec des plantes, avec des essences de plantes, des mélanges, pouvaient faire tourner l'esprit d'une personne. La faire mourir. Voilà. Et donc, elle aurait baigné, parce qu'elle voit se détacher le roi d'elle-même. Elle en a peur. Elle ne veut pas de cela. Et il paraît qu'elle aurait commencé à trafiquer un petit peu pour se rapprocher, enfin, pour que le roi se rapproche d'elle. Mais surtout, le roi était intéressé par une autre jeune femme et qui va, comme de par hasard, mourir empoisonnée. Alors, qui l'a empoisonnée ? On ne sait pas, mais les soupçons se portent sur Madame Montespan.
D'accord. Et elle est-elle jalouse de Madame de Maintenon ? Est-ce qu'elle se soupçonne qu'il y a un début ?
Alors non.
Non.
Au départ, elle n'est pas jalouse du tout de Madame de Maintenon. On va dire de Françoise d'Aubigné, on va dire de la veuve Scarron, dans l'ordre. Elle n'est pas jalouse de la veuve Scarron, parce que la veuve Scarron est sous ses ordres. Et c'est quand elle commencera à voir qu'elle se détache et qu'elle a moins d'emprise sur elle et que le roi la regarde différemment, que là, elle va commencer à s'inquiéter.
Incidemment, je conseille la lecture d'un livre de Jean Tollet qui s'appelle Monsieur de Montespan.
Ah, il faut le lire.
Qui est absolument extraordinaire, où Monsieur de Montespan n'accepte pas du tout, non. Du tout d'être cocu, même par le roi.
Non, oui.
Et il, par exemple, il met des cornes de renne sur son carrosse pour bien expliquer que lui est jaloux et qu'il ne sera pas pensionné s'il le faut par le roi, mais qu'il n'accepte pas. Ce que tous les autres acceptent, c'est que le roi pensionne ses bonnes fortunes pour calmer le mari et que lui, ça ne calme pas du tout.
Mais en même temps, je trouve ça très drôle parce que, alors, il était. Alors, je suis désolée de cette expression, mais c'est comme ça qu'on l'appelait, le cocu, hein, le plus grand.
Mais c'est lui qui voulait.
Et puis ensuite, il l'a affiché, il dit tant qu'à le faire, autant.
Il était à fond.
Voilà. Autant le faire et vaut mieux finalement, encore aujourd'hui, on se dit. Vaut mieux se le faire à soi-même plutôt que d'autres vous le fassent derrière.
Oui, parce que il a été exilé, mais assez gentiment par le roi finalement, qui a respecté le fait qu'il ait une vraie douleur. Il aurait pu l'exiler, on ne doit parler plus. Il a compris que Monsieur de Montespan ne jouait pas.
Il s'est effacé.
Ouais.
Monsieur de Montespan s'est effacé.
Ouais,
mais les enfants qu'il a eu avec son épouse, eux en ont voulu à leur mère. Hein. Ils en ont beaucoup voulu à leur mère.
D'accord. Donc, quand et comment prend-elle possession du château ?
Alors, elle est rentrée au service donc, de Madame de Montespan en tant que nourrice. Et puis, la reine va lui accorder... Enfin, le roi, pardon, tant pour moi. Le roi va lui accorder d'abord 100 000 livres, ensuite 15 000 livres de gage pour son travail en tant que nourrice. Et une fois qu'elle aura cet argent, eh bien, elle se dit qu'elle veut devenir propriétaire. Hein. Et elle se dit que son service auprès du roi va prendre fin. Les enfants vont grandir. Et que, une fois que les enfants seront grandis, elle pense à elle. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Et donc, elle va commencer à demander un petit peu à ses amis, informer ses amis qu'elle recherche une demeure, un petit château avec un peu de terre pour pouvoir faire travailler la terre et avoir des revenus. Et c'est comme ça qu'elle va trouver le château de Maintenon qui appartenait à un monsieur qui s'appelait Audet de Rian. Et qu'il l'a vendu en cette année 1674, donc à Madame de Montespan.
D'accord, elle va en profiter combien d'années ?
Très peu.
Ah bon ?
Oui, parce que dès l'instant où Louis XIV va légitimer ses enfants, donc c'est un an avant qu'elle achète le château, elle sera obligée de vivre à la cour, ambiance qu'elle ne supporte pas. Et donc du coup, à ce moment-là, il va falloir répondre aux demandes royales. Donc, le roi la voudra régulièrement à la cour pour s'occuper des enfants, et puis pour la regarder.
C'est bien. Elle était jolie au moins.
C'était une belle femme.
Quand même.
C'était une belle femme. Alors, faut faire attention, parce que quand je dis belle femme, il faut aussi se rendre compte que les critères de beauté ont changé. Donc les critères de beauté du grand siècle, elle est vraiment une très belle femme.
Et alors, quels étaient ses critères à l'époque ?
Alors, le nez droit et aquilin, les yeux fins, le visage fin, un tout petit peu de rondeur, mais sans trop. Et puis, on va dire des avantages.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
Une belle poitrine.
C'est ça, du sang au moins.
Voilà.
On connaît un peu le truc. Ah oui. Et alors, si vous étiez équipé en 85C, c'était pas possible de passer dans le lit royal.
Oh.
Il fallait être tard à lumière, quoi.
Bon, enfin, voilà, oui.
N'en parlons plus. On va parler avec un de vos collègues du château plus en détail. On va essayer de parler de l'environnement de ce château et de tout ce qu'il y a à voir dans la ville de Maintenon, en dehors du château. Parce qu'on connaît le château, éventuellement l'aqueduc.
Oui.
Et il y a beaucoup de choses.
Oui, en fait, le bourg, parce que c'était un bourg, primitivement parlant, le bourg de Maintenon, le village, la ville ensuite, est extrêmement riche et a vraiment traversé les siècles de la grande histoire de France, vraiment. Hein. Donc que ce soit aux origines, avec la forêt des Carnutes qui passait par là, que ce soit même avant, puisqu'on a des traces du néolithique dans le petit bourg de Changé qui se trouve à côté, il y a des mégalithes, il y a le musée à visiter. Il y avait un camp qui datait de l'époque de César. Et des conquêtes, de la conquête romaine de César. Donc tout ça fait remonter les origines de la ville extrêmement loin, ce qu'on va retrouver également dans les armes de la ville de Maintenon.
Parce que ?
Alors, dans les armes de la ville de Maintenon ont été créées finalement après la Seconde Guerre mondiale, puisque la ville de Maintenon s'est extrêmement fait remarquer et distinguer à deux reprises pour avoir tenu et avoir été un haut lieu de la résistance au cours de la Seconde Guerre. Donc vous avez le blason qui va représenter le blason d'une des grosses familles du château, qui est la famille de Noailles. Donc je fais un petit retour en arrière rapide. Madame de Maintenon n'a pas d'enfant, mais son frère Charles a une fille, Françoise Amable. Et donc cette fille va épouser Adrien Maurice de Noailles, grosse famille de Noailles, qui a détenu le château ben, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et donc on a les armes de la famille, on a les armes de la famille de Noailles, on a ce qu'on appelle un franc quartier. Donc vous voyez un blason, vous le coupez en quatre et sur un petit coin, ça s'appelle le franc quartier. Et là, nous avons la tête de griffon couronnée, avec une couronne donc, des armes de Madame de Maintenon. Et puis, cerclant les armes, vous avez l'armoirie, vous avez d'un côté une feuille de chêne relatif donc, à la forêt des Carnutes, une feuille de laurier relatif au camp romain, et en cimier, ça veut dire tout en bas, eh bien, la croix de guerre pour la Seconde Guerre mondiale.
D'accord. Bon. Le Changer, où c'est un lieu connu des archéologues quand même.
Oui, alors Changer est un lieu, petite ville, un petit village qui jouxte Maintenon et qui est connu des archéologues parce que au XXe siècle, Monsieur Petit, un agriculteur, quand il labourait un champ, a buté contre un caillou, il a dégagé ce caillou et c'est le départ en fait des mégalithes de Changer. Et justement, il y a un mégalithe qui s'appelle le mégalithe Petit, qui doit son nom à ce monsieur.
Donc, dans le coin, il y a un faux mégalithe qui a été créé pour l'an 2000. Vous voyez ? Émancé, je crois.
Non.
Sur la commune d'Émancé, ils ont...
Émancé, ils ont fait ça ? Ah non, je ne le connais pas.
Bon,
j'irai le voir.
Oui, ils ont, pour l'occasion, ils ont monté un mégalithe. Pas très loin de la tombe de Hélène Boucher.
Ah, Hélène Boucher.
Il faut en parler d'Hélène Boucher.
Ah oui, il faut en parler. Hélène Boucher, très grande aviatrice. On en parle, lors de la visite de la ville de Maintenon. On parle d'Hélène Boucher, qui s'est rendue célèbre par son rôle dans l'aviation.
Et c'est son ses records.
Ses records. Et c'est son père, c'est à son père que nous devons le monument aux morts. Car il était architecte.
Oui, mais alors justement, le monument aux morts, il faut le dire, c'est un méga monument aux morts.
Oui.
C'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. Deux ailes déployées sur le buste d'Hélène. Un collège à Chartres porte le nom d'Hélène Boucher avec deux ailes aussi sur le boulevard Charles. Et ça représente, je dirais, la superficie d'une douzaine de tombes. Il est magnifique, ce monument.
Un très beau monument.
Il faut aller le voir au
cimetière. Il faut aller le voir.
Ouais.
Et chose que les gens ne savent pas, c'est qu'en face du monument aux morts, à Maintenon, il y a une maison privée qui a été la toute première école de la ville de Maintenon.
D'accord.
Où on a retrouvé dessus des tables de multiplication et des règles grammaticales.
Une chose que vous ne savez peut-être pas, mais je cherche l'explication... je fréquente beaucoup les cimetières, celui de Maintenon en particulier. Il y a une tombe qui est toute bleue, bleu ciel. J'ai inventé une nouvelle, mais je ne sais absolument pas pourquoi elle est bleue, alors que toutes les autres sont grises. Ça vous dit quelque chose ?
Non, pas du tout. Vous avez le nom de cette tombe bleue ?
Oh non, mais vous rentrez, je vous la montrerai, ouais. On la voit.
D'accord. Non, effectivement, d'accord. Je ne sais pas.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Maintenon, donc, intramuros ou dans les environs à signaler ? Moi, j'aimerais bien que vous me parliez de l'aqueduc que j'adore.
Alors l'aqueduc de Maintenon est fantastique pour le travail qui a été mené derrière. Oui, c'est ça.
Pour rien.
Et finalement, pour rien.
D'accord, évidemment, non. Alors pourquoi on a construit un aqueduc ? D'où il part et quel était le projet au départ ?
Alors l'aqueduc était prévu pour partir de Pontgouin et aller jusqu'à Chartres pour alimenter les 1400 bassins du jardin. 1400 bassins que Louis XIV voulait jour et nuit en eau et en activité.
Oui, parce qu'il voulait faire un pendant à Versailles, quoi, en gros.
Non, c'était à Versailles.
Ah, c'était à Versailles,
c'était,
oui.
Pour alimenter les bassins
de Pontgouin, voilà. De Pontgouin à Versailles, via Maintenon.
Via Maintenon, voilà. Et puis, donc, du coup, Vauban, lui... alors, pourquoi Pingouin de Pontgouin, pardon. Pourquoi Pontgouin à Maintenon ? C'est parce qu'il y a un dénivelé. Et la grosse problématique de Versailles, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Or, ici, chez nous, en Eure-et-Loir, il y a beaucoup d'eau. Oui. Donc c'était
la nappe de Beauce, voilà. C'est pas très connu, mais effectivement, voilà. C'est un réservoir naturel, un des plus importants d'Europe. Voilà. Oui.
Et donc, du coup, on avait un petit dénivelé. Et donc, Vauban propose à Louis XIV de tout passer par siphon. Et le roi ne voulait pas. Il voulait que l'eau prenne le chemin des airs. Donc, on a fait un aqueduc, un petit peu sur l'aqueduc qui se trouve dans le sud de la France.
Nîmes.
Non, pas l'aqueduc de Nîmes. Le pont du Gard. Petit peu dans le style.
Eh ben c'est Nîmes.
Oui, c'est Nîmes, mais bon. Un petit peu dans le style du pont du Gard, en fait. Et il a été arrêté en 1688, jamais fini, avec environ 2 millions de livres annuels pour les travaux.
Mais dites pourquoi il n'a pas été fini.
Il n'a pas été fini parce que le royaume de France entrait en guerre.
Oui, c'est-à-dire qu'on a mobilisé tous les moyens. Alors, oui. Pendant quelques années, je ne sais pas, 10 ans quand même.
Un petit peu moins.
On a mobilisé des centaines et des centaines de soldats,
alors,
de
30
prisonniers.
000.
38 000, on va dire.
Alors, 30 000 personnes dans le village de Maintenon, 11 000 environ dans le jardin de Madame de Maintenon qui était horrifiée de cela. Et de cette main-d'œuvre, 10% était de l'armée, parce que c'était une main-d'œuvre facilement mobilisable, et puis tant qu'à les payer, autant les payer à faire quelque chose.
Oui. Et donc, l'entrée en guerre coûte très très cher.
Oui.
Même si Louis XIV ne calculait pas à un moment ou un autre, il fallait mobiliser les moyens pour d'autres choses.
Et les hommes.
La guerre a interrompu cet aqueduc qui, maintenant, est rendu en partie à la nature, puisqu'on voit des arbres.
Oui,
Hubert Robert.
Oui, on dirait une toile d'Hubert Robert, c'est vrai, vous avez raison quand on regarde. Alors, c'est beau. Ces arbres,
c'est
très romantique, c'est un romantisme du 19e siècle, c'est fabuleux, mais c'est dangereux aussi.
Oui, et alors moi ça me fait penser aussi à Astérix, vous savez, dans le domaine des dieux, où à la fin, la nature reprend ses droits.
L'image de fin où on voit les racines sur, sur ce qui reste du domaine des dieux.
Oui, la nature reprend toujours son rôle. D'accord, eh bien écoutez, merci pour ce premier entretien.
Prie.
Je sais qu'on va se revoir, vous avez plein de choses à nous raconter. Mmh. Vous intervenez en tant que médiatrice culturelle, animatrice du patrimoine dans une cinquantaine de lieux en France, jusqu'à beaucoup dans la région parisienne et en Eure-et-Loire.
Île-de-France, Eure-et-Loire.
Île-de-France, voilà. Oui, voilà. Et même jusqu'à Strasbourg une fois.
Oui, j'adore la cathédrale de Strasbourg.
Voilà, donc je pense qu'on verra. On reverra notre guide conférencière préféré.
Merci.
Annick. Merci Annick.
C'est moi. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.